n'y a pas de droit. Le droit, c'est le directeur. C'est tout. Si vous avez dit quelque chose contre l'administration, on vous punit. On dit vous avez menti, on vous punit, c'est tout. Ça va pas plus loin.
Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient.
Vous êtes en état d'arrestation.
Vous êtes là pour être puni. Dans une prison, c'est pour vous punir. C'est pas seulement vous pouvez liberté, c'est pour vous punir. On vous tient là, vous ressortez comme vous étiez, ou pire, et c'est tout.
Ils disent qu'on est menaçant. On est menaçant.
On est menaçant.
Ils sont que des menteurs. Ils sont que des menteurs.
Ils sont que des menteurs.
Laisse pas béton.
Bonjour à toutes et à tous, personne à l'intérieur des murs et personne en dehors. Bienvenue dans la deuxième émission de Laisse pas béton sur Radio Panique, l'émission qui donne la parole aux premières personnes concernées par la prison, les détenus, les ex-détenus et les proches de détenus. Pour cette deuxième édition, on parlera des prisons sous confinement en deux parties et on se posera la question suivante, comment ça se passe à l'intérieur des prisons durant cette période de pandémie, comment le vivent les détenus et leurs proches. Ce sera donc une émission un peu spéciale, étant donné la période spéciale. Et vu les mesures sanitaires et les interdictions de déplacement, nous ne serons que deux sur le plateau aujourd'hui, malheureusement. Mais les invités s'exprimeront via des interviews enregistrées par téléphone. Donc là, nous sommes en direct de la FLAC, le foyer de lutte anticarcérale situé à Anderlecht.
Bonjour à tous et à toutes, bonjour Martin. Au cours de ces deux émissions, on va essayer de comprendre quelle est la situation actuelle dans les prisons. Et vu tout ce que la crise du coronavirus soulève, on va pas mal s'intéresser à la question de l'accès aux soins de santé dans les prisons. Ce sera aussi l'occasion de réagir aux différents mouvements de protestation qui ont eu lieu depuis quelques semaines dans les prisons et à quelles revendications en fait sont portées par les détenus et par leurs proches. Du coup, comme Martin l'a dit, on a eu pas mal de discussions au téléphone avec des détenus, des ex-détenus et leurs proches, ce qui nous a permis d'avoir en fait leur point de vue et pas celui de l'administration. L'administration qui, d'ailleurs, a commencé à chercher les téléphones et à pointer les responsables pour les infos qui sortent et à les réprimer. Et du coup, pour cette raison, on ne donnera pas le nom des personnes qui parlent ou des prisons, etc.
Alors, pour commencer cette émission, on va faire un petit point sur les dernières actualités qu'il y a eu ces dernières semaines par rapport à cette épidémie, qu'est-ce qui se passe en prison. Alors, c'est le 12 mars qu'un premier cas de Covid-19 a été confirmé en prison en Belgique, et c'était à Mons. Et suite à cela, avant le confinement, il y a déjà eu des mesures qui ont été prises en prison, à savoir la suspension de toutes les visites, le fait que l'isolement dans les prisons, ça constituera la quarantaine, et les détenus diagnostiqués malades sont envoyés alors à la prison de Bruges. Et en réaction, à ce moment-là, déjà, il y a des prisonniers de Termont, de Nivelles, qui refusent de rentrer dans leurs cellules, et d'autres mouvements ont eu aussi lieu à Celt et à Malines.
Oui, et du coup ensuite, le 18 mars, c'est le jour du début du confinement, et pratiquement pour les prisonniers, en fait, ce que ça veut dire, ça veut dire être confiné dans sa cellule 23 heures sur 24, que les préaux sont restreints à des très petits groupes, que les détenus n'ont plus de visite, plus aucune activité commune. Ils ont reçu 20 euros de crédit d'appel par semaine pour compenser ça. Du coup, le travail en prison continue. Par exemple, il y a de la production de masques. Tous les travailleurs et collaborateurs, collaboratrices de la prison continuent à rentrer. Donc la police, les autorités judiciaires, les services sociaux ou de santé, avec notamment une restriction pour les avocats et les avocates, seulement quand c'est vraiment strictement nécessaire. Il y a une suspension des nouvelles permissions de sortie et des nouveaux congés pénitentiaires, mais les congés pénitentiaires prolongés sont accordés.
Donc ça fait déjà pas mal de mesures dès le confinement, et dans les jours qui suivent, il y a un premier agent pénitentiaire qui est testé positif au coronavirus et une annonce officielle qui déclare une pénurie de bracelets électroniques. Alors tout ce contexte, évidemment, ça donne lieu à plusieurs réactions.
Ouais, en effet, on a entendu, il y a eu pas mal de révoltes de prisonniers, notamment à Saint-Gilles, à Leuze-en-Hainaut, à Marche-en-Famenne, à Jamioux, à Mons, à Lantin et à Arlon. Chaque prison porte ses propres revendications, mais en général, c'est contre la restriction des préaux, contre l'arrêt des visites, pour avoir un meilleur accès à l'hygiène, etc.
Et à côté de ça, il y a aussi des organismes et des personnes qui gravitent un peu autour du carcéral qui font un appel.
Oui, tout à fait. Notamment Luc Vervat, le Génépi, la Ligue des droits humains, l'OIP, la CLAC, le Conseil de Centrale de Surveillance, qui appellent notamment à des prises de mesures concernant les conditions de vie des prisonniers, à leur hygiène, etc. Et ouais, du coup, des mesures qui vont de la garantie des mesures d'hygiène à la libération des prisonniers. Il y a aussi eu des actions autonomes, notamment on a vu une banderole qui s'est affichée devant la prison de Nivelles en soutien aux détenus. Des lettres sont écrites au ministre et à la direction des institutions pénitentiaires, surtout par les proches de détenus en fait.
Ouais. Et justement, de ce côté-là, de la direction des institutions pénitentiaires, de l'autorité publique, eh bien, il y a des annonces de 306 congés pénitentiaires qui sont prolongés jusqu'à la fin de la pandémie. Et toujours pas de gants, pas de masques, pas de gel disponible en prison à ce moment-là. Et à ce moment-là, justement, Koen Gaens trouve la situation dans les prisons normale. Citation.
Ok, merci Koen Gaens. Et ça fait beaucoup de restrictions et beaucoup de négatifs, non ?
Eh bien non, John. Figure-toi que la publication d'un article dénonçant les conditions de vie dans la prison d'Andenne permettra aux détenus de Andenne d'avoir accès à du savon. Ben oui, on fait un peu avec ce qu'on a de positif dans cette période.
Ouais. Et du coup, aux dernières nouvelles, on annonce que les détenus qui sont en fin de peine pourraient être libérés plus tôt sous certaines conditions. Par contre, les permissions de sortie sont toujours suspendues. Il y a eu une annonce aussi que 17 000 masques auraient été mis à la disposition des détenus. Et à Andenne, les détenus ont réussi à obtenir, par leurs revendications, entre autres que les agents portent des masques et des gants.
Voilà. Et donc tout ça, ça fait un paquet d'informations. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il y en a plein d'informations qu'on n'a pas pu mettre ou qu'on a dû oublier. Concernant le système pénal, brièvement quand même, vu que c'est étroitement lié au carcéral, le système pénal est un service essentiel. Donc il tourne toujours, mais il est juste au ralenti. Et il y a une limitation des comparutions physiques, entre autres des détenus, lors des audiences. Voilà, ça reste compliqué, ça reste pas très très clair, car les informations qui circulent aujourd'hui sont encore plus difficiles à avoir qu'à la normale, et c'est ce qu'on va essayer justement d'éclaircir aujourd'hui.
Ouais, en effet, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que du coup la situation actuelle du confinement, on a l'impression que ça révèle des grosses failles dans le fonctionnement interne de la prison, et pour commencer, on va un peu se demander... Comment ça se passe la santé en temps normal, en fait ? Par exemple, à quel point c'est possible d'avoir des soins de santé de qualité ? Et si c'est possible, comment est-ce qu'on fait ? C'est quoi les procédures ? Et est-ce que c'est possible d'avoir un suivi médical complet ?
J'étais en prison en janvier, pendant un mois, en préventive, à Saint-Gilles. Et je suis sorti de là avec un bracelet pendant 3 semaines. Et donc voilà, non, là pour l'instant, je suis juste sous condition. J'ai pu reprendre le travail pendant 15 jours. Et puis voilà, directement au confinement. C'est marrant parce que maintenant, voilà, tout le monde voit c'est quoi un confinement, quoi. Voilà, c'est quoi vivre avec un bracelet. Enfin, pour les gens qui respectent le confinement à 100%. Parce que voilà, avec un bracelet. Moi, pendant 3 semaines, j'ai pas eu le choix. Je passais même pas de la porte. Parce que sinon, ça pouvait être vu comme une violation de ma liberté conditionnelle. Enfin, voilà. Et je pouvais retourner. Donc, là, c'était un confinement très, 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 très. Strict, tu peux rien faire. C'est des gens qui doivent faire tes courses pour toi et tu dois te débrouiller comme ça et dépendre de ton entourage. Mais non, voilà, il n'y a pas moyen de faire un petit tour autour du bloc des maisons, ne fût-ce que pour prendre l'air. Non, c'est 3 semaines à la maison de 24 heures sur 24. Même pas pour faire des démarches. Hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on m'a enlevé. Parce qu'à la base, je voulais entreprendre des démarches. Mais voilà, pas de chance, tous mes rendez-vous sont tombés, ont été annulés avec le confinement, évidemment. Donc j'espère qu'au moment où je vais passer en correctionnel, ils prendront en compte ça, le retard dans les démarches. Alors, tu rentres en prison, le lendemain, tu vois un médecin généraliste, la visite médicale d'entrée, quoi. Moi, déjà, suite aux 48 heures de garde à vue, comme j'ai des problèmes veineux, au niveau des jambes, et j'avais déjà demandé directement à mon entrée, j'ai demandé pour qu'on vérifie ma jambe, en fait. Étant donné que j'avais une douleur au niveau juste au-dessus du genou, tu vois. Et donc, tous ces par rapport, tous les soirs, les matons te donnent, normalement, tous les soirs, parfois, il faut un petit peu leur demander, espérer qu'ils n'oublient pas, et te le ramènent. Et donc, t'adresses un rapport. pour demander. Donc il y a le SPS, ça c'est pour tout ce qui est le psychologue, psychiatre. Et alors tu as le CMC qui eux, mais ça c'est à Saint-Gilles uniquement, où il y a un dentiste, où il y a une échographie. Donc une majorité des soins peuvent être donnés sur place. À Nivelles, c'est différent. Si tu as besoin, comme dans mon cas, j'ai fait une thrombose, j'avais besoin de faire un écho Doppler, ils auraient dû signer un papier pour faire un transfert jusqu'à Saint-Gilles, justement, où là, ils m'auraient fait mon écho Doppler, et puis je serais retourné à Nivelles, en fait. C'est pas humain, c'est fait par rapport, par biais de rapport. Alors, des fois, tu as tellement pas de retour que tu te demandes si le biais de rapport, il n'est pas tombé, ou il n'est pas perdu, ou et qu'il y en a un autre qui est passé derrière, qui a pris, qui a fait une boule et qui l'a mis à la poubelle, tu vois. Donc, tu refais un rapport, ça... tout est décalé. S'il y a un problème de communication, il y a beaucoup de problèmes de communication. Et suivi psy, encore pire. Encore pire. Psy, psychiatre, assistante sociale. Au niveau personnel disponible, au niveau de obtention d'un rendez-vous. Parce que la prise de rendez-vous, ça, c'est le rapport. Et j'ai vu un psy 15 jours après, avec toujours le même discours. Oui, mais il faut bien comprendre. Vous êtes 850, nanani, et nous, on est en sous-effectif. Ouais, madame, mais alors, faut arrêter de faire rentrer des gens, ou alors, faut engager des gens, faut trouver une solution. C'est vrai, faut trouver une solution, parce que t'as pas envie d'être malade en prison. Franchement, merci, quoi. C'est ça le problème, c'est, tu déshumanises totalement la personne, en fait, tu vois. Quand t'es obligé de chier devant quelqu'un d'autre, avec un paravent, ou avec un vieux trablis, et que pour avoir une douche, t'attends ta douche deux fois par semaine. Et puis le restant du temps, tu dois demander un peu d'eau le matin pour faire ta toilette, comme en 1900. Tu tacles de l'eau froide hein, dans les cellules. Il y a des gens qui vont prendre il y a des gens qui vont même ne plus aller à la douche parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a un business qui s'est mal passé, nanani, nanana. Ah, faut parler, hein. Oh, si tu parles pas et que tu te laisses... Ah ouais, faut parler. Souvent, c'est vrai, c'est ça que tu dois faire, en fait. Mais t'es pas pris en considération. C'est ouais, c'est ça, ferme ta gueule, allez, rentre dans ta cellule. Ferme la porte. C'est pour ça, d'ailleurs, des fois, faut même gueuler. Ouais, moi, mon duo, il me disait, faut être encore plus agressif, tu vois. Faut être plus revendicatif. Pas vraiment agressif, mais faut pas lâcher le morceau, tu vois. Faut insister. Faut te battre, quoi. Pour des trucs de base, quoi. Enfin, je veux dire, moi, normalement, j'allais chez mon médecin traitant. Et jamais mon état, ce serait je suis sorti de là, j'étais quand même avec des béquilles, quoi.
Bien, Mike, c'est donc, vous l'avez entendu, un gars qu'on a appelé il y a quelques jours et qui est en effet en liberté, qui a été libéré quelques semaines avant le confinement, sous bracelet. Et puis d'ailleurs, après, on a enlevé son bracelet. Donc voilà, je sais pas, John, si tu as des réactions.
Ça me donne en fait l'impression qu'avoir accès aux soins de santé, c'est un gros bazar rempli d'embûches, en fait. Et que déjà, rien que le fait de devoir remplir des rapports pour demander d'aller voir un médecin, c'est-à-dire il faut se rendre compte qu'on a un problème de santé, puis après tu remets ton sort dans les mains des matons, parce que c'est eux qui doivent faire parvenir ton rapport, et après t'es même pas sûr d'avoir les soins dont t'as besoin sur place, quoi. Et sans doute que les procédures pour aller se faire soigner dans une autre prison ou à l'hôpital, ça doit prendre encore plus de temps.
Ouais, c'est vrai qu'il parle beaucoup des rapports. On l'entend dans le nombre, on pourrait compter le nombre de fois qu'il dit le mot rapport dans cette interview. Et c'est vrai qu'on peut peut-être donner une info. Donc, dans les prisons en Belgique, il y a en effet Saint-Gilles, Bruges et la prison de Lantin qui sont plus équipées, qui ont des dispensaires. C'est différent d'une à l'autre, mais ils sont plus équipés que les autres prisons. Et donc, souvent, il y a des transferts d'une prison vers celle-ci. C'est aussi intéressant, moi, je trouve, quand il parle des conditions de bracelet, des conditions aussi probatoires qu'on lui a mis durant cette période de confinement. On se rend compte, en fait, le confinement, ça les suspend. On peut se dire que c'est gagné pour eux, mais en fait, ils vont devoir les reprendre après, et que si le délai d'exécution et du respect des conditions est de un an, si le confinement dure 3 mois, ce sera 1 an et 3 mois. Et donc, ça prolonge quand même la probation. Voilà. Alors, on a entendu aussi parler de pas mal des matons dans son interview. Et donc, évidemment, quand on l'a appelé, on lui a posé la question, mais comment c'est le lien au maton? Est-ce qu'il faut insister? Est-ce qu'il faut parler
voilà. J'insiste par rapport, alors que sur les rapports, il y a bien une petite phrase qui met « Si vous avez rentré un rapport, n'insistez pas, nous faisons c'est que c'est en route. » Enfin, voilà, comme quoi, il vaut mieux pas trop insister, quoi. Et c'est vrai qu'il vaut mieux pas trop insister, quoi. Comme je t'ai dit, quand je suis rentré, j'étais légèrement dépressif, donc j'ai demandé aussi des médicaments. En plus, je suis toxicomane. Donc, du coup, j'ai besoin de vitamine B, des Valium et du Dominal pour dormir. La généraliste m'avait dit qu'au bout d'une semaine, elle avait commencé déjà à diminuer le Valium, mais elle m'avait pas précisé qu'elle allait arrêter le Dominal. Donc, du coup, un vendredi, je reçois pas mon Dominal. À savoir que les rapports, le week-end, ils sont pas ramassés. Donc, le week-end, en règle générale, si tu as besoin de voir un généraliste, il n'y a pas moyen. Il faut vraiment sucer le gardien, quoi, gentiment. Et encore, parce que c'est même pas sûr que tu vas pouvoir voir le généraliste. Donc, j'ai passé tout un week-end sans Dominal, en dormant mal. Et donc, le lundi, j'ai fait un rapport en disant, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire ici pour être entendu. Est-ce qu'il faut faire une bêtise, tout ça. Donc, du coup, j'ai été reçu par le médecin traitant qui, lui, du coup, m'a direct dit, oui, tu vas aller voir un psychiatre l'après-midi et tu vas passer en S2. S2, ça veut dire qu'ils vont venir te voir plus souvent. Donc, résultat, ils m'ont changé de cellule. Ça s'est très, très mal passé. Non, ça s'est très mal passé avec les gardiens, avec les matons, ouais, qui m'ont changé. Ils m'ont mis au rez-de-chaussée, soi-disant, parce qu'au rez-de-chaussée, ils passent plus souvent voir, alors que c'est totalement faux. Il n'y a rien qui a changé. Le S2, là, pour te dire, le premier soir, on avait fabriqué une petite bouilloire artisanale. On avait fait sauter les plombs, tu vois. Il a fallu 20 minutes avant que le matos n'arrive. Donc, si ça tombe, c'était mon duo qui sonnait pour dire que l'équipe, il était en train de se couper les veines ou n'importe quoi comme connerie. Il a quand même fallu 20 bonnes minutes avant qu'il arrive et qu'on insiste et qu'on insiste et qu'on insiste sur taper sur la porte. Moi, il y a un gardien qui m'avait, comme j'avais fait des démarches en disant que j'étais dépressif et tout ça, il y a un maton qui m'avait proposé de mettre une corde dans ma cellule, tu vois. Mais quand déjà t'es dépressif et tout ça, donc c'est limite une menace de mort, quoi, tu vois. Je veux dire, je te mets une corde dans ta cellule, enfin voilà, quoi.
Ok, voilà. Mais moi, j'ai pas mille choses à ajouter. Je trouve que ce témoignage parle de lui-même. Maintenant, on va faire un petit bond sur la situation actuelle du Covid-19 en prison. Et on va commencer par écouter le témoignage de deux femmes de détenus.
Ben, j'ai mon compagnon qui est incarcéré en prison et au mois de juin, ça fera 10 ans. Ben, il n'a pas le moral, vu qu'il n'a pas de visite. On essaye au maximum de changer les idées, en fait. Mais c'est pas si simple, c'est essayer de lui remonter le moral déjà vis-à-vis du téléphone, en se disant que demain, ça fait 3 semaines qu'ils n'ont plus de visite. Et puis, ben, ils sont là, on va dire, seuls au monde. Juste avec des agents que, en gros, ils leur parlent comme des merdes. Ça me prend 4 heures aller, 4 heures retours. Et en voiture, 2 heures aller, 2 heures retour. 2 à 3 fois ça même. Sauf que là, ben, depuis 3 semaines, on n'y va plus. Mais nous, on comprend pas déjà, c'est le fait, c'est qu'ils ont supprimé les visites. Ce chose que, nous déjà, on a dû à accepter ça. Mais qu'on entend que la police, les avocats et les agents font des allers-retours. Et que en réalité, c'est les agents qui ramènent ce virus-là. Donc pourquoi interdire les visites, mais les agents peuvent faire des allers-retours et ramener ce virus, en fait. Ben ici, j'ai entendu que normalement, vis-à-vis de la TV, on entend que oui, ils doivent prendre des masques, du désinfectant, des gants, mais c'est des choses qu'ils ne font pas. Tous les soirs, ils vont visiter dans les cellules. Donc ils sont proches des détenus. Quand ils leur donnent à manger, ils sont proches d'eux, sans gants, sans masque, sans rien du tout. Mon compagnon, il parle à personne, on va dire. À part au préau, que, ouais, ils se voient, on va dire, il y a des tensions électriques, vu que, faut pas se cacher, on sait bien qu'il y a la plupart des prisonniers qui fument, et que là, ben, ils ont plus rien à fumer, donc ils pètent tous les plombs. Mais, quand ils rentrent en section, on va dire, ben, ils doivent tous rentrer dans les cellules. Donc, je pense que, ouais, ils se voient juste maximum 1 heure par jour quand ils vont au préau, c'est tout. Quand ils y vont. Le tabac, je pense qu'ils peuvent l'acheter en cantine. Chose que aussi on a entendu qu'ils vont supprimer les cantines parce que c'est des magasins extérieurs ou qu'ils commencent à tomber en... Enfin, qu'ils ont plus de stock, un truc comme ça. Donc, on ne sait pas comment ils vont faire, en fait. Au début, j'avais entendu qu'ils avaient été supprimés toutes les visites, les activités, on va dire. Et puis, de temps en temps, ils sortent au prix ou 1 heure, mais il y a des jours qu'ils ne sortent pas. Donc, en gros, on va dire, il y a des jours qui restent H24 en cellule, mais il y a des jours que, ouais, ils restent 23 heures sur 24. Ce qui n'est vraiment pas énorme pour un humain. Parce qu'il faut se dire, oui, c'est des détenus, oui, ils sont en prison, mais avant tout, c'est quand même des humains. Ça fait longtemps, mais on s'y habitue pas, en fait. Parce que c'est des personnes proches et que, à chaque fois, on va dire, à la fin de la visite, on a mal au cœur. De les laisser là et que nous, on repart.
Bah, hier, j'ai été pour déposer juste un sac de linge à mon homme. Ça a tourné en ridicule, en n'importe quoi. Parce que bon, moi, le 23, après mes multiples demandes, requêtes, puis j'en suis, j'ai reçu un mail de l'assistante sociale me disant que le gel hydroalcoolique avait enfin été accepté. Donc, hier, quand j'ai déposé le sac, j'ai joint une bouteille de gel hydroalcoolique. Donc, j'arrive pour l'en faire rentrer. Et là, on me dit, ah, mais non, il n'est pas fermé, il n'est pas scellé. J'ai dit, mais enfin, ils sont dans la pharmacie, regardez, je l'ai acheté il y a 10 minutes. Donc, l'heure et tout, sur le ticket de caisse. Il me dit, non, vous voyez bien. Et alors, il l'ouvre, là, vous savez, comme les gels douche. Bon, ils sont pas scellés, les gels douche, mais ça fait toujours un clic. Il y a toujours un forçage la première fois. Il force, il ouvre pour la première fois et il me dit, vous voyez, c'est ouvert. Et là, j'ai pété les plombs quand même un petit peu. J'ai fait une petite transformation de mon visage et sa collègue a bien vu que j'étais en train de m'énerver. Et là, je lui dis, mais vous êtes sérieux, là, en fait? Vous venez d'ouvrir, là, devant mes yeux, devant votre collègue. Il me dit, écoutez, je vais appeler l'adjudant, il va dire quoi? Donc, il appelle l'adjudant et il dit à l'adjudant, madame est en train de faire un petit scandale. Je n'étais absolument pas en train de faire un scandale, donc je commence à crier et lui dire, je ne fais pas un scandale, maintenant je vais en faire un. Donc, l'adjudant arrive, la première chose que je lui dis, ben, votre collègue vient vous dire, je fais un scandale, alors que pas du tout. C'est juste que je me défends. À partir du moment où moi j'ai un mail qui me dit que oui, c'est normal que je conteste qu'il ne veut pas faire un travail, quoi. Et après 10 minutes de discussion, il me dit, écoutez, je vais le prendre quand même, je vais le demander à la direction, mais c'est la direction qui décidera, quoi. Je dis, bah, ok, au moins, bah, merci monsieur. Et donc, après, plus tard, j'ai eu mon homme dans l'après-midi. Je lui dis, alors, le gel, maintenant, je n'ai toujours pas eu une fois, deux fois. Bon, vraiment, il a commencé à s'élever. Il me dit, écoute, moi, je vais descendre au préau, comme ça, quand je remonte, je leur demande. Et donc, il descend, apparemment, il l'a demandé une fois, deux fois. L'adjudant lui a répondu, l'adjudant ou le chef, je ne sais pas. Il lui a répondu, oui. Puis la deuxième fois, il lui a dit, écoute, ne m'embête pas, je te dis que je l'ai amené à ta cellule. Donc, lui, malin, il a fait quoi? Il a tiré après son côté dessus par la fenêtre. Il a dit, le gel est là. Il a dit non. Et là, c'est parti en vrille. C'est parti en vrille, verbalement, je pense, parce que il lui a dit, Coco, tu es sérieux, en fait. Tu me dis qu'il est là, tu te fous de ma gueule juste pour me faire rentrer. Et du coup, il a dit, moi, je rentrerai pas tant que tu me donneras pas mon gel. Donc, il l'a rendu. Il est rentré et puis ils ont prévenu la direction et ils m'ont dit qu'il était privé de préau. Et ce matin, il a eu une lettre lui disant que de sa faute, il y avait eu un mouvement et que c'est lui qui entraînait les autres. Alors que ça fait 3 jours qu'il y a des mouvements, qu'il y a eu le feu, qu'il y a eu tout ce qui s'ensuit et qu'il n'est pas sorti une seule fois ces 3 jours.
Mais merci déjà et encore à ces deux femmes de détenus qui ont osé en fait un peu partager ces paroles et qui nous serviront de base. Par rapport à cette dernière histoire, pour donner un peu des nouvelles de ce qu'il est advenu de ce gars qui a refusé de rentrer en cellule si on lui donnait pas le gel, ben voilà, il y a quelques jours, il a été transféré dans une autre prison en guise de sanction disciplinaire justement, en pleine période où justement les transferts sont limités ou interdits.
Ouais, juste pour ce que ça vaut, une petite pensée de soutien pour ce gars et pour sa femme. Donc voilà, c'était un peu une bonne introduction.
Un bon ordre du jour, hein, comme on dit.
Oui, c'est ça. Et maintenant, avant de continuer, on va faire une petite pause musicale.
La désinstitutionnalisation, le fait d'avoir fermé des lits de psychiatrie, et fermer des lits de psychiatrie, c'est mettre dans la rue des gens et les envoyer en prison à terme. Donc on a de très belles courbes avec des interactions où le nombre de malades mentaux en détention est inversement proportionnel à la diminution des lits de psychiatrie. When you knock for my door, early this morning, when you knock for my door, and I say, hello, Satan, I believe it's time. Walking
Est-ce qu'il y a assez de médecins dans les prisons?
Je crois qu'il n'y en a pas plus maintenant que dans d'autres circonstances, mais
Ok, je vais bien soigner mes patients. Mais avant, faut que je parle à la direction. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Ok. Soignant, c'est une vocation, mais ça veut pas dire qu'on va pas perdre patience. Simple. Le taf de 4 fait à 2, tu deviens pas Shiva même si t'es en transe. Basique. Personne ne veut avoir à choisir entre douche, popo ou pansement. Simple. Personne ne veut avoir à mourir pour des putains de raisons d'argent. Basique.
J'ai 10 000 prisonniers, 10 000 tests, c'est énorme, c'est infaisable pour l'instant. Mais évidemment, si on avait tous les tests du monde disponibles, ça serait plus facile.
Si c'était ta mère dont je m'occupais, je pense pas que tu voudrais économiser. On vient pas me dire que je sais pas m'organiser quand soi-même on sait pas gérer. Quand un hôpital brûle, il faut réagir vite. Si les bonnes sœurs sont saoulées, c'est parce que la messe est mal dite. Bobo, euro, dodo, c'est un système qui se délite. À cause des abrutis d'en haut qu'on ose encore appeler des élites. Vas-y. Quand tu pousses les gens à bout, t'étonnes pas que ça finisse en suicide. Si tu te prends pour un roi, fais gaffe quand même au régicide. Vas-y. Simple, simple, basique, basique, simple, simple.
Petit mix musical fait maison, fait l'espa béton. Alors là-dedans, on a entendu un petit mot peut-être quand même sur ce qu'on a entendu. Alors il y a eu Koon Gaines, évidemment pas vraiment de commentaires nécessaires, mais il y a eu aussi au tout début Jill Scott Heron avec Me and the Devil. Jill Scott Heron qui est militant, poète, artiste... et qui a aussi fait un séjour en tôle et que justement cet album est sorti après. Et à la fin, c'était un remix d'Orelsan du CHU toulousain sur les soins de santé et adressé à l'autorité publique française.
Ouais. Du coup, pour la suite, on va écouter de nouveaux témoignages de proches et de détenus sur les mesures qui sont prises actuellement pour... à l'occasion de la crise du coronavirus, voir un peu qu'est-ce qui est mis en place. Pour rappel, on va donc pas parler, pas donner le nom des prisons ni des personnes qui sont encore incarcérées.
Le virus, depuis qu'il est là, bon, on n'a jamais eu un dépistage de quoi que ce soit. Ils ne viennent jamais prendre notre tension. On est au préau. Les limites de distance ne sont pas... Il n'y a pas d'alcool. Pour des masques, on a dû faire 2-3 mouvements parce qu'au début, ils nous ont accepté le masque dans les sacs de linge, mais... Après, ils les acceptaient pas par prétexte qu'il y a 2 équipes et qu'une était au courant, mais pas l'autre. Or que bon, quand c'est comme ça, ben, tout le monde doit le savoir, la direction, elle doit le faire savoir. Après, des gants non plus, il n'y a pas. Il y a des agents, ils viennent de l'extérieur au début, ils venaient sans gants, sans masque. Oui, maintenant, ils en ont. Mais bon, il a fallu quand même rouspéter, les gens rouspètent, sont à cran. Il y a des détenus, voilà, ils veulent pas prendre certaines choses au repas du midi parce que l'agent l'a touché, n'a pas de gants. Ça va loin, ça va loin quand même.
Actuellement, les bases au niveau de la sécurité sanitaire ne sont pas respectées. On a dû faire des démarches pendant plus d'une dizaine de jours pour pouvoir rentrer à nos compagnons dans les sacs de linge des flacons hydroalcooliques. Donc ça a été dans un premier temps accepté. Ensuite, nous avons été déposés tous les gels hydroalcooliques sont encore à la direction. Donc en fait, nos compagnons n'ont rien reçu. Dans un deuxième niveau, les masques nous sont arrivés qu'il y a 4 jours pour les matons, non pas pour les détenus. Et alors, comme tout le monde le sait, dans une cellule, on ne respecte pas du tout les limites de distanciation pour le confinement, en fait, tout simplement.
Il avait les boules aussi parce que du coup, il me dit, moi, j'ai été au cachot. Il me dit, mais je t'explique pas l'état du cachot. Donc, je dis, ouais, il me dit, t'es pieds nus, tu marches dans de la pisse, c'est dégueulasse. Je dis, ok, d'accord. Et puis, il me dit, mais le truc qui te montre plus les boules, c'est que toi, tu sais pas s'il y a un des coronas qui est passé juste avant toi dans ce cachot. Ouais, ouais. Et donc, du coup, lui, pendant les six jours qui ont suivi, parce qu'apparemment, le virus, il lui faut 6 jours pour se développer, il me dit, moi, pendant 6 jours, j'étais en panique quand je suis sortie du cachot. Hein. Et alors, le truc qui m'avait aussi un peu sidéré, c'est ils sont donc, juste derrière leur vitre, leur fenêtre de leur cellule, il y a la cour, en fait. Je ne sais pas si c'est la cour, je crois que c'est l'arrière-prison. Et tu ne peux pas imaginer, étant donné qu'il n'y a pas de ramassage de poubelles, il y a tout le monde qui jette ses poubelles par la fenêtre. En fait, il n'y a plus... en fait, avant, ils ouvraient les portes et ils disaient, voilà, tu peux aller dans la cellule. Enfin, tu vois, tout le monde pouvait aller dans les cellules de Intel pendant 2-3 heures. Mais du coup, ça, ils n'ont plus du tout, en fait. Ce qu'ils ont, c'est... t'as le maton qui vient taper pour dire, voilà, c'est l'heure de je sais pas quoi, mais la porte reste fermée, en fait. Parce qu'il m'a dit, on n'a pas le droit de sortir, mais du coup, pour vider les poubelles, etc., ben, on jette par la fenêtre. Du fait qu'ils jettent, ils jettent, ils jettent, ben, au bout d'un moment, ça se cumule, et ça arrive à la hauteur de leur fenêtre, en fait.
On s'est créé un groupe où on s'échangeait beaucoup d'informations. Parce que souvent, ils disent une chose à une personne, et puis 10 minutes après, ils disent autre chose à une autre personne au téléphone. C'est un peu... ça dépend un peu de la personne que tu tombes, sur qui tu tombes quand t'appelles. C'est dingue. C'est franchement dingue comme situation. Par exemple, c'est un bête exemple. Hein. À la deuxième, il y avait un garçon qui faisait régulièrement des crises d'épilepsie, et sa femme était toujours prévenue. Comment ? Imaginez comment. Mon homme me sonne, alors qu'il n'est même pas dans la même cellule que lui. Hein. Mon homme me sonne, moi je sonne à sa femme. Ensuite, sa femme se rend et elle arrive là-bas. 40 minutes après, elle trouve encore l'ambulance devant. Ils sont encore en train de le réanimer. Vous trouvez ça normal? Un mec de 24 ans. Le mec, il fait une crise d'épilepsie, il reste éclaté à terre pendant une heure. Ça tourne en crise neuroleptique. Mais c'est une blague ou quoi? Mon homme ne sait bien pas et que moi je sais bien pas ma copine. En fait, elle ne sait rien. Elle ne sait rien de ce qui se passe. Elle ne sait rien. Enfin, en tout cas, c'est pas la direction ou la prison qui... Pas tout de suite, hein. On comprend bien que c'est pas des choses qui savent se faire dans l'immédiat, mais dans la journée, appelle, s'il y a sa femme, écoutez, il s'est passé ça, ça, ça. Je sais pas, moi. On veut même pas qu'il ait un lieu qui se fait voter le cerveau. Mais quoi, s'il meurt en CD, il a 22 ans, le gamin, ou quoi? Il en fait constamment des crises, hein. Apparemment, hier ou avant-hier, si je ne me trompe pas, sa femme a même téléphoné à un numéro qu'on donne aux détenus où ils peuvent téléphoner, se plaindre de choses qui ne vont pas à l'intérieur de la prison. Et donc, elle a téléphoné à ce numéro-là, elle était outrée le soir, quoi. Elle m'a dit, il a encore fait une crise, elle me dit, tu sais pas, ils l'ont maintenu au sol avec leurs pieds.
Pour réagir à ces témoignages, moi, ça me donne surtout l'impression qu'il n'y a rien ou presque rien qui est mis en place, en fait, pour garantir la sécurité sanitaire des détenus. Et le minimum qui est mis en place, j'ai un peu l'impression que c'est à côté de la plaque, quoi. Je pense à cette histoire de poubelle, que arrêter de ramasser les poubelles, c'est une mesure de protection. Ça me semble complètement absurde. Voilà.
Bah oui, à t'entendre, moi ça me fait penser aussi à toutes les réactions qu'on voit sur le net ou que moi j'entends autour de moi de dire mais en fait en dehors on n'a pas de masque non plus, qu'ils arrêtent de se plaindre, nos aînés ils sont aussi mal et... Et voilà, je pense qu'il y a plein de réponses à dire, mais moi j'ai quand même envie de rappeler aux personnes qui pensent ça que, bon, déjà, on n'est pas obligé de justifier une situation de merde par une autre situation de merde, et qu'en prison, ben voilà, les gens, on leur a retiré tout moyen d'action, donc ils ne peuvent pas réagir, ils sont obligés de demander, donc c'est normal qu'ils revendiquent, qu'ils demandent, et il y a une promiscuité de malade, quoi. Le 1m50, mais tu l'oublies en prison, y a vraiment une base hygiénique de merde. Les poubelles, les toilettes, on l'a entendu déjà avec Mike au début. Et donc là, c'est encore pire. Et donc voilà, j'ai envie de dire, mais comparons ce qui est comparable. Et aussi, je voulais en profiter parce qu'il y a un moment où je pense qu'il y a une des femmes qui parle de commission d'un numéro de téléphone. Et voilà, en effet, pour le moment, il y a toujours les commissions de surveillance sont toujours joignables. Et donc, voilà, pour les personnes qui galèrent un peu à y accéder, c'est le 02 549 94 71. Et le dispositif relais a mis un numéro en ligne il n'y a pas longtemps pour l'écoute et le soutien psychologique. Et c'est un numéro gratuit, c'est le 0800 20 489. Vu que cette émission est aussi là pour s'échanger des informations utiles pour résister un peu à la détention. Alors, on l'entend depuis le début, hein, la santé est énormément liée à l'information. Et donc, on va faire un petit tour sur comment ça se passe au niveau des échanges d'informations, au niveau de l'information en prison.
Alors, bien évidemment, quand on téléphone au numéro de la prison, ce qu'on entend, c'est qu'ils ont droit au médecin, que le médecin réagit très rapidement. À l'opposé, nous avons formé plusieurs groupes via Facebook de femmes de détenus, que ce soit de la prison ou d'autres, en ce qui concerne pas du tout, en fait. Les détenus voient des médecins, mais ce n'est pas du tout dans les 24 heures. Il s'agit plutôt de les voir dans les 72 heures et pas avant, quoi.
Moi, mon homme, ça fait une semaine qu'il demande d'avoir un médecin. Il y a eu aussi l'incendie il y a quelques jours. Malgré ça, on téléphone, on demande parce qu'on s'inquiète, on demande à ce qu'il voit des médecins. On nous dit, mais ne vous inquiétez pas, madame, la direction est passée ce matin chez tout le monde et tout le monde va bien. Et puis quand tu demandes à ton homme, la direction est passée. Mais elle est folle, celle-là. Ouais, la direction est passée. Ouais, la première est passée. La première, elle a du prix de la méthadone au tox. Ils se foutent de nous réellement, en fait.
Les gens réclament, ils sont là, ils ont besoin de soigner leur famille, ils ont besoin de se réconforter, voir s'ils vont bien, s'ils n'ont pas été touchés. C'est important mentalement. Ici, il y a des gens, ils vivent sans savoir si leurs familles sont touchées, sans savoir ce qui se passe à l'extérieur, sans savoir voilà, des nouvelles de leurs enfants, pour ceux qui en ont. Moi, j'ai une grand-mère de 86 ans, voilà, c'est délicat.
Ouais, ils ont 10 euros par semaine. 10 euros, ça équivaut à peu près, je sais pas moi, 80 minutes. C'est dur sans visite, c'est vraiment dur. Bah ouais, on s'appelle tous les jours, mais il y a des jours où on ne sait pas s'appeler parce qu'il n'y a plus de crédit, parce que malgré qu'il me dit, ouais, ça va couper, il faut que je raccroche, sinon 30 minutes, on a toujours un truc à dire en plus. Et du coup, on arrive à court. On arrive souvent à court. Et ça, c'est triste quand t'arrives à court et que tu sais que t'appelleras plus ce jour-là. Et qu'il est 18h, tu dis, je l'aurai plus avant demain. C'est dur, c'est vraiment dur.
Ben, ouais, dur de pas être touché, je pense, en entendant, en tout cas moi personnellement, en entendant ces témoignages et les restrictions encore plus concernant les contacts. Et voilà, l'inquiétude de l'information, on entend que c'est hyper lié. Moi, ça me fait penser un peu à... Enfin, je sais pas toi, mais moi, tous les gars qui m'expliquent, mais oui, en prison, en fait, t'as un accès à l'information lors des préaux, lors des matons, et que via les JT, en fait, t'as que ça à faire. Donc évidemment, tu regardes tous les JT. Et voilà, moi, ça me fait penser que maintenant, j'entends beaucoup de gens qui justement, essayent d'éviter le JT tellement c'est inquiétant. Parce qu'en fait, autant toutes ces informations-là, c'est hyper paniquant. Et donc, on essaye de changer les idées ou d'avoir des discussions rassurantes. Mais je me dis, mais en prison, c'est quoi les moyens de se rassurer? Enfin, voilà, ça... C'est ça que ça évoque en moi.
Ouais, à fond. Moi, un petit truc positif là que je trouve qu'on a entendu là-dedans, c'est mais comment en fait les proches de détenus arrivent à s'organiser entre eux pour se faire passer les informations, etc. Je trouve ça assez cool. Et ouais, moi je pense que, enfin là, on va s'intéresser en fait à quels sont les effets de ce manque d'informations, de ce flou. Qu'est-ce que ça a comme effet sur les détenus et sur leurs proches?
Il me dit à vue d'œil en une semaine, il y a une semaine on était à 2, 4 corona et là on est à 11. Il me dit je le sens et puis je m'endors avec une boule au ventre. Hein. Mais ils n'ont pas de nouvelles, ils sont coupés en fait. Et moi du coup je lui dis ouais mais ils vont quand même les envoyer dans des hôpitaux. Ou... Il m'a dit non apparemment ils vont rester là, ils ont quelques infirmiers qui font des allers-retours et c'est tout. Les gens sont en train de péter les plombs ici. Donc il m'a dit clairement j'ai bien peur qu'on en arrive là. Hein. Ouais, et du coup, comme ça pète là-bas, ben, à mon avis, eux, ils vont l'entendre et ils vont péter aussi les plombs de... J'espère pas, mais je pense que c'est ce qui va arriver. C'est clairement, les laisser dans le doute sans rien savoir, ni même avoir une réponse à leurs questions, mais faudra pas s'étonner qu'ils pètent les plombs, les gars. Et je peux comprendre, parce qu'on en arrivera aussi, nous, à ce stade-là, question personne à l'extérieur, pas spécialement des prisons, si on continue à nous dire non, vous inquiétez pas, c'est comme une grippe, restez chez vous, c'est comme une grippe, ne vous inquiétez pas, mais qu'en attendant, nous, on continue à voir le nombre de contaminés, le nombre de décès, mais les gens ici aussi vont se révolter. Donc, c'est compréhensible qu'eux, à l'intérieur, ils se révoltent. Et ce qui m'agace encore plus, tu vois, c'est ce genre de personnes qui sont en confinement et qui se plaignent toute la journée en disant « j'en ai marre, je sais pas quoi faire, mais purée, moi j'ai une pensée incroyable pour ceux qui sont dans un 3 mètres carrés, qu'est-ce qu'ils doivent dire en fait ?» Mais je pense que ça permet aussi à beaucoup de gens d'ouvrir leurs yeux, t'as vu ce que c'est ? Quand on te prive de liberté, c'est la pire chose qui soit en fait. Ça, en fait, c'est ce que je te disais là tout de suite, ça me permet un peu de relativiser quand par exemple j'ai mes enfants qui me font péter les plombs, entre guillemets, je me dis « reste tranquille » en fait, quand j'ai envie de me plaindre et me dire « putain, je suis enfermée », ben je me dis, je pense à lui en fait, je pense complètement à lui en me disant que, ben qu'en fait on a un petit peu le cul dans le beurre, c'est pas la même chose, j'estime que oui, il doit, entre guillemets, il doit assumer ses conneries, tout à fait, loin de là, je suis pas là pour dire, faut le libérer, moi je demanderais pas mieux évidemment, mais j'ai cette boule en permanence, du fait de toujours me dire est-ce qu'il va m'appeler, est-ce que je vais avoir ses nouvelles, est-ce qu'il va m'appeler pour me dire que, qu'il a de la température ou qu'il se sent pas... J'ai cette angoisse en permanence et je peux rien faire, en fait. Je me sens vraiment inutile. En fait, je me sens inutile, concrètement.
Ça va péter dans pas longtemps. Papio. Il vient de défaut sans masque. Et quand tu lui dis, tu vas pas ramener le coronavirus, il dit, ouais, mais faudrait bien que tu me mettes quelque chose. Je lui dis, tu retires les chaussures chez toi, il dit, ouais. Et pourquoi chez moi, tu veux pas les retirer? Il me dit « Oui, chez moi, je les retire devant. Et chez moi, tu veux rentrer avec ?» Ils sont débordés. Ouais, parce que c'est le système, ils étouffent tout, ils veulent pas t'expliquer, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que ça part en crise, tu vois, paranoïa et tout, pas ça. Je suis rentré dans la paranoïa, moi. Moi, je lui ai dit, tu rentres plus chez moi. Des fois, à midi, quand il vient avec le bout, parce que moi, c'est rare que je prends quand c'est des frites, tu vois, des croquettes, tu vois, ça je prends. Mais le reste, je prends pas, je vais en manger, moi. Je peux encore faire des pâtes. Avec de la crème fraîche et du fromage, et je mange pas leur bouffe, tu vois. Et donc, je suis rentré dans une paranoïa, et ça fait 3 semaines que je sors même plus. Je suis quelqu'un qui fait tout le temps mon sport et tout, je sors plus. S'il n'y a pas de visite, il n'y a rien. C'est que c'est vous qui avez ramené la maladie, forcément. Et, ah oui. Vous avez aucun respect, ça va partir en couille. Après, je dis, tu rentres plus chez moi, et tu vois, quand tu leur dis des trucs, ils deviennent fous, parce que pourquoi? T'es trop éveillé pour eux. Et ils préfèrent ceux qui prennent des cachetons, qui dorment, qui sont rien, tu vois, je veux dire. Mais quand t'es trop réveillé, ça leur va pas.
Alors, moi je trouve, voilà, c'est un petit goût du climat qui doit régner pour le moment dans les prisons. Mais en fait, là, les gens qui sont à l'intérieur, ils sont dans cette situation, dans ce climat de paranoïa, en fait, tout le temps, à chaque heure de la journée pour le moment, quoi. Donc, ouais, je pense que ça doit vraiment pas être facile à vivre.
Ouais, c'est vrai qu'on entend souvent ce truc de se réveiller la boule au ventre. Avec l'impuissance un peu qui a à côté, l'inquiétude pour les autres et ouais, cette paranoïa, hein, comme tu dis, c'est leur mot. Et voilà que pour les infos et puis ce dernier témoignage, on parle aussi des agents pénitentiaires là-bas, parce qu'évidemment, c'est le sort des personnes incarcérées est remis en fait dans les mains des agents pénitentiaires. Et donc, ben voilà, on va écouter quelques témoignages et quelques paroles à propos du lien avec les matons.
Les agents ont eu apparemment un ordre comme quoi s'il y aurait quelque chose ou d'être malade, ne pas venir. Il y a des agents, ils ont mal à la tête, ils ont ça, ils viennent travailler parce qu'ils ont besoin d'un salaire. Voilà, ils viennent, donc ils préfèrent gagner 400-500 euros en plus et faire mourir des gens.
Il y a un agent qui avait le coronavirus, il venait travailler. Pas de masque, pas de gants. Je suis rentré dans une paranoïa, moi. Même le trio, j'ai même pas envie d'aller parce qu'ils sont 15-20 en bas. Ils respectent pas les 1m50 de distance. Et donc, si tu passes au détecteur, tu as une veste qui sonne, forcément, il prend ta veste, il ne chiffre pas dedans sans tendant. Donc, s'il a le virus, ça colle partout, ça colle dans les chaussures, ça colle dans les vêtements. Je suis confiné, là, je suis quand même dégoûté parce que je fais plus mon sport, je fais mon sport en cellule. Mais ça va, la douche, on a droit à la douche tous les jours. Mais ça va, moi, je vais avec mon Dettol, donc je vais avec du Dettol, je passe partout, là, tu vois, ce que je vais me doucher. Parce que même les douches, tu regardes, c'est. Ils désinfectent ça tous les 3-4 jours, mais c'est tous les jours
qu'ils désinfectent
ça.
Le ministre Cohn-Gate, il a fait un circulaire qui dit que tous les agents pénitentiaires sont obligés d'aller travailler, même si un membre de leur famille est contaminé au Covid-19. Mais il a quoi, lui, en fait? C'est quoi son problème à ce mec-là? Parce que je me pose encore la question jusqu'à maintenant, depuis que j'ai eu accès à cette information, depuis, je me pose la question, pourquoi? Mais pourquoi tu fais ça? Écarte cette personne-là, je ne sais pas, moi.
Mais il a quoi, ce mec? Alors, il y a plein de choses qu'on a entendues, mais nous, on a retenu ça particulièrement. Et donc, en tant que bon reporter, ben voilà, on s'est renseigné sur Cohn Gaines et la question lui a été posée sur le virus et les matons.
Elle est entrée dans les prisons nécessairement par le biais des agents pénitentiaires qui viennent de l'extérieur.
Et quand on lui pose la question de la souffrance des détenus.
Et donc ils souffrent, mais pendant la crise des grèves de 2016, les prisonniers ont bien tenu et ça a duré 2 mois. Donc je compte sur eux, je compte sur mes agents pénitentiaires qui font de leur mieux pour rendre la vie aux prisonniers aussi agréable que faire se peut dans les circonstances difficiles qui sont les leurs.
Et pour ce qui est du problème des conditions d'hygiène?
Les conditions d'hygiène sont les mêmes de toujours. J'ai encore interrogé le directeur général des prisons, M. Van de Voorde, hier.
Okay.
Donc il n'y a pas de différence. Okay. Il y a seulement moins de services qui viennent de l'extérieur.
Uh-huh. Et ben voilà, merci Cohn Gaines. Quand on sait que les gens chient encore dans des seaux, ben nous voilà bien rassurés. Et on peut compter au moins sur les détenus pour qu'ils tiennent le coup. Voilà. Merci le ministre. Et donc, on ne s'étonne pas, en entendant ça, enfin moi je ne m'étonne pas, je ne sais pas toi John, on ne s'étonne pas qu'il y a la mobilisation et de revendications. Donc, petit tour vers ce que les détenus demandent.
En gros, c'est l'hygiène. C'est vraiment le truc duquel ils se plaignent le plus. C'est pas le con, parce que tu vois, le confinement, voilà, concrètement, confiné, tu vois. me disait, il me dit, moi, en soi, le confinement, je m'en fous. Mais c'est juste question qu'on nous donne le minimum et que le type qui vient taper sur le maton, qui vient taper sur ma porte pour l'ouvrir et pour me dire, t'as des heures de préau, en sachant qu'il était en haut, un minimum qui portait un masque et des gants quand il vient me voir, quoi. Maintenant, étant donné qu'il n'y a plus de visite, ben, j'essaie de lui envoyer le max d'argent parce que je pense qu'il n'y a que l'argent qui fera qu'il aura, un, entre guillemets, un minimum de... de bien-être, c'est-à-dire en bouffe, etc. quoi, parce que apparemment ils leur donnent pas non plus de quoi nettoyer leur seau, parce qu'il me dit, moi, les lingettes qu'ils me donnent, c'est les lingettes que j'utilise pour nettoyer mon seau. Je dis, mais attends, quoi, on passe pas avec un bidon de Javel ou non? Il me dit, si moi je le nettoie pas bien, juste je vais le vider à la toilette, il y a encore les traces de pneus de la veille.
Revendiquer le gel, le masque, le téléphone gratuit, on aurait aimé des kits d'hygiène, parce que je pense que voilà, c'est important, justement, l'hygiène. Dans le corona, il y a des gens, ils sont là, ils n'ont pas d'argent, donc ça veut dire qu'ils ne se lavent pas.
Non, il y a des gens, ils n'ont pas d'argent. Moi, ça va, j'ai un soutien, j'ai des produits, j'ai tout ce qu'il faut mettre à des gens, ils n'ont rien, les pauvres. Ils leur donnent que dalle.
Ils réclament le service minimum niveau sanitaire, ils réclament le téléphone illimité pour pouvoir parler, en fait, parce qu'on est dans un cas de pandémie, parce que les morts affluent, parce qu'il y a des dizaines, des centaines de morts tous les jours, quoi. On est dans quelque chose d'un petit peu irréel, d'extraordinaire, sont les mots utilisés par les ministres. Donc, dans des conditions pareilles, oui, le téléphone devrait être gratuit, oui. Les bracelets sont là, les bracelets sont existants. On veut pas de mesure de faveur. Ce qu'on veut, c'est la base. Savoir que la personne a accès à n'importe quoi, vous voyez. Et surtout, s'il se passe quelque chose, quand il a les mêmes droits que tout le monde face aux soins médicaux qui sont quand même là, aux hôpitaux, à tous ceux qui, eux, justement, il faut pas oublier parce qu'ils travaillent d'arrache-pied pour nous. Pour nous sauver cette situation.
Ils n'ont plus de visite, ils n'ont plus de cantine. Moi, mon homme, aujourd'hui, il a reçu sa viande. Ça fait 2 semaines et demie qu'il l'attend. Il l'a reçu, il a dû jeter la moitié qui est pourrie. C'est normal qu'on donne de la viande pourrie aux détenus. En plus, il l'a payé et qu'il l'a payé au prix double. C'est plus cher à l'intérieur et là, c'est encore plus cher depuis le confinement.
Ok. Moi, ce qu'on entend, c'est que en fait, les revendications. Des détenus, ben, c'est pas le ciel en fait. Ils sont pas en train de demander le ciel, ils demandent vraiment des trucs de base, des trucs d'hygiène de base pour être protégés en fait et pour se sentir en sécurité face à ce coronavirus. Un truc que j'aimerais bien soulever aussi, qu'on a entendu, c'est en fait ce truc des inégalités entre les détenus en fait. En prison, tout se paye et au prix double, comme on l'a entendu. Et je trouve ça cool de voir que dans les revendications des détenus, en fait, ce soit des revendications communes, quoi. C'est pas parce qu'on est face au coronavirus que ça devient chacun pour sa gueule, mais qu'en fait, on veut que tous les détenus aient accès au même truc d'hygiène de base, quoi. Pour la suite, du coup, en fait, il y a eu certaines libérations, en fait, depuis le début du coronavirus, et spécialement pour ça. Et on va écouter un peu ce que les détenus ont à nous en dire.
Il y a des détenus libérés. On dit qu'on libère les gens qui sont pas dangereux. Il y a des pédophiles qui ont été libérés quand même, quoi. Je tenais à le dire. Et un époux qui a roulé 2 fois sur sa femme. Il y a des choses qui ne sont pas justes, clairement. Il y a des choses qui ne sont pas justes. Des exceptions ont été faites. Pourquoi faire des exceptions à certains et pas à d'autres? Je veux même pas être, dire, ne pas laisser les meurtriers sortir. Ce n'est pas le cas de mon compagnon du tout. Et si je disais ça, ben, je parlerais pas au nom de tout le monde. Mais voilà, il faut savoir classer les gens et voir vraiment la dangerosité des gens. Il y a des peines beaucoup, beaucoup moins lourdes que d'autres. Certaines personnes qui sont là pour des défauts de roulage, et on les laisse enfermer. C'est totalement illogique. Et j'en connais un. Il y a des personnes qui sont... Je suis pas Dieu, je peux pas dire qu'elles sont inoffensives, mais il y a des personnes, par exemple, comme je viens de le dire, pour rester pied à terre, qui sont là pour des défauts de roulage. Il y a une adresse, c'est sa femme, une grande maison et autres, et non, on lui refuse de sortir.
Il faut qu'ils trouvent une solution quand même, je ne sais pas, il y a des gens, ils sont admissibles au congé, mais ils n'ont pas couru de congé. Ben, laissez-les sortir ou mettez des bracelets. Moi, je suis en plein dossier. Voilà, ça retarde toutes les procédures, ça retarde tout. On a l'impression que, voilà, on peut être admissible à certaines choses et on ne nous les donne pas parce qu'en cours, il y a du retard et en plus, en temps réel aussi, bon, faut y aller pour qu'ils les donnent. C'est grave. Il y a des gens, ils sont là depuis des années. C'est pas facile.
C'est vrai que ça, on a beaucoup entendu hein, quand même l'injustice en fait que ça suscite auprès des personnes incarcérées, la libération de certains et pas d'autres. Surtout que c'est selon des catégories classiques pénales qui reflètent pas beaucoup de choses de la réalité. Et un peu cette idée, pourquoi lui et pas moi? Alors moi, j'ai envie de dire un petit truc là-dessus avec la CLAC, donc le collectif de lutte anticarcérale. Mais souvent, on essaye en tout cas d'éviter un peu la logique. Mais lui, c'est la pire des merdes, et donc pourquoi pas moi? Parce qu'en fait, souvent, c'est vraiment une logique de compétition ou d'enfoncer l'autre qui nous est bien rentré en tête via le système pénal. Quand on parle pas du système pénal, mais en fait, c'est ça qu'on nous met en tête et ça a bien réussi. Mais les dérives, c'est que ça divise et que, en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est rappelons-nous que l'injustice, les choses que vous vivez, elles sont injustes en tant que telles et on n'a pas toujours besoin de le justifier par le cas d'un autre, quoi. Ça mérite révolte, point.
Ouais, tout à fait d'accord. Et du coup, un petit mot sur ces aménagements de peine dont on a entendu parler, en fait. Mais du coup, en fait, ça ne s'adresse pas du tout à tout le monde. C'est même assez strict comme condition. Et en fait, ça prend la forme de suspension de l'exécution de la peine. C'est-à-dire que si maintenant ce truc du coronavirus va durer 3 mois, et que pendant ces 3 mois, tu n'es plus en prison. Mais après, en fait, ces 3 mois vont se rajouter à la peine que tu dois purger quand même. Donc, ce n'est pas des libérations totales, quoi.
Mmh, en effet, là, c'est quand même une mesure qui peut les protéger du risque sanitaire à l'intérieur des prisons, mais ce n'est pas spécialement un cadeau, ça fait débat même dans le milieu juridique. Alors, on arrive à la fin de l'émission. En tout cas, moi j'ai envie de dire merci déjà à toutes ces personnes qui ont témoigné, qui ont osé témoigner, parce qu'en fait c'est des risques qu'elles courent, j'ai envie de le souligner, et qu'on est là aussi pour les suites si jamais il y a des sanctions disciplinaires ou des sanctions autres. Mais on aimerait bien aussi avec John faire un petit point sur les centres fermés.
Ouais, parce que pour rappel, les centres fermés c'est des prisons pour étrangers en fait. Et voilà, du coup d'après les infos qu'on a eues, la situation elle est tout aussi tendue. On entend les mêmes inquiétudes au niveau de l'hygiène, au niveau des gardiens qui risquent de transmettre le virus à l'intérieur. Et en fait, là aussi, il y a des personnes qui s'organisent, qui lancent par exemple des grèves de la faim pour dénoncer les conditions dans lesquelles elles sont détenues et aussi pour demander leur libération. De nouveau, c'est pas étonnant, ces mouvements sont réprimés. Par exemple, c'est la mise à l'isolement des personnes qui sont en grève de la faim. En plus, d'après la loi, la détention en centre fermé serait illégale, étant donné que vu la situation actuelle du coronavirus, les expulsions sont impossibles en fait. Okay. Mais bon, on sait ce que ça vaut. Voilà. Bref, on en parle plus lors de la prochaine émission. Et en tout cas, une grosse pensée à toutes les personnes qui sont enfermées et un gros soutien pour toutes les révoltes.
Ne soyez pas le big up, hein, John. En tout cas, c'est clair, j'espère qu'on aura le temps pour parler plus longuement de cette situation dans les centres fermés, donc les prisons pour étrangers. Et ben voilà, on voit que toutes ces détentions, toutes les formes de détention, elles suscitent des mouvements de révolte de manière générale, mais encore plus dans ces temps de crise, partout dans le monde. Et en Belgique, vraiment, il y a très peu de prisons où il n'y a pas eu de mouvement. De mouvements de résistance. Et voilà, ce qu'on a envie de rappeler, c'est que ce que appellent les médias ou d'autres des troubles, des incidents, ben en fait c'est des révoltes légitimes, et que c'est d'ailleurs que c'est vraiment impressionnant. Les personnes vraiment s'organisent entre elles malgré les risques, elles mettent en commun des revendications, elles font parvenir des vidéos, il y a toutes sortes d'actions autonomes, de créativité tant que possible. Et c'est d'ailleurs pour ça que la seconde partie de cette émission, Les prisons, son confinement de l'ESPA Béton, sera accordée à ce sujet.
Oui, exactement. Ça se passera samedi prochain, toujours sur Radio Panique. Et on sera à l'occasion... d'écouter d'autres témoignages et d'essayer de comprendre toutes les révoltes qu'on a vues ces dernières semaines.
C'est maintenant vraiment la fin de l'émission Les prisons sous confinement de l'ESPA Béton sur Radio Panique. Alors, vous pouvez retrouver toujours les paroles des gens qui vivent au plus près la prison sur notre page La Claque, Clac, C-L-A-C, Nos prisons sur Facebook, et continuez surtout à nous les envoyer via la page ou l'email laclaque@riseup.net.
Et voilà, et du coup, Je voulais juste terminer par un gros big up à toutes les personnes qui sont à l'intérieur, qui sont enfermées aujourd'hui, et à toutes leurs proches, en fait, toutes les personnes qui sont touchées par ce système pénal et carcéral complètement pourri. Et voilà, un gros message de soutien.
Voilà, en effet, on va c'est maintenant le temps des big up, vu que c'est le rituel de l'espace béton. Et moi, ce que j'ai envie de dire, ben, c'est qu'on est là, avec vous tant que possible. Et voilà, la prison, c'est de la merde avant la crise. Et nous, on est là depuis avant et on restera là avec vous bien après. N'oubliez pas qu'on est ensemble. C'est parti pour les big up de tous les interviewés.
Je voudrais simplement leur dire force à vous. On se plaindra jamais assez autant que vous, enfin, c'est-à-dire que je me mets à votre place à 100%. N'oubliez pas qu'il y a des gens, entre guillemets, comme vous et comme moi qui pourraient éventuellement rentrer dans cette démarche. On est là pour vous soutenir, on ne vous oublie pas. Big up, soyez forts et courage à vous, les gars. On ne vous oublie pas. Vraiment, vous êtes, en tout cas pour moi, vous êtes dans mes pensées tous les jours. Lâchez pas et soyez forts.
Force et courage. Force et courage, il n'y a que ça à dire.
À toutes les personnes qui sont enfermées, c'est courage, le confinement est pire pour eux, et ils ne sont pas tout seuls en fait, il y a des gens à l'extérieur qui sont là, qui se battent pour eux, qui lâcheront rien, peut-être qu'ils mèneront à rien, mais qui lâcheront rien, et on espère que ça va, que ça n'aille pas pire, quoi.
Tout ça, c'est aux jeunes, les gars, ne faites pas comme nous, soyez plus malins, sortez, mariez-vous, faites des enfants, allez travailler, regardez notre vie à nous. Nous, ça va, on est là, on est des bonhommes, parce qu'on a su gérer. T'as des gens, ils vont pas savoir gérer. Ils vont entrer en prison, ils vont tomber dans la drogue, ils vont se détruire. Tu vois, ils vont avoir 25 ans, ils n'auront plus de temps, ils ne ressembleront plus à rien, ils vont se tuer la santé. Sa famille va l'abandonner. Et après quoi?
Force à vous, courage, on est là pour vous aider. Et force à vous, quoi.
Et si tu veux remettre un petit big up à tous les détenus, courage à eux.
Voilà, ben, un gros bisou à ma famille, qu'elle fasse très très attention. Et ça va aller bientôt. Sortirez, quoi.
Eh bien, qu'ils sachent qu'on est là, qu'ils sachent que pour nous c'est dur aussi dehors, mais qu'on est là, et quoi qu'il se passe, on lâchera pas. On lâchera pas, et non, on lâchera pas. Et on est déterminés. On est déterminés parce que c'est pas humain ce qu'ils vivent. Ce n'est pas humain ce qu'ils sont en train de vivre.
DSR Crew, catégorique. Hey. La rage s'en mêle, même les vieux tiennent des barres d'acier. Y'a pas grand chose dans la gamelle, mais la poubelle est rassasiée. Chaleur d'un quartier, le froid du tonfa pour faire le contraste. Les chacs sont à quatre pattes, ils recherchent pas leur verre de contact. Le temps, je commence à le sentir, à quoi ça sert de grandir. J'irai encore mon âge au fond des verres de cantine. Plus d'horaire, toute la nuit y'a ma lumière dans le bas. J'rappe en braille, je veux atteindre la lune, elle est plus belle d'en bas. En direct de la Suisse, TSR avec catégorie, qu'on tue l'après-midi. À fumer de la zeb et faire valser nos rimes, toujours encouragé. Ça m'évite d'être enfouraillé, tu finis tout, pas longtemps. Je joue tout, aïe en full HD, humeur pirate. Il faut que j'aille voir la merde des Philippines. Vos classiques c'est de la merde, j'écoute Mozart, je m'en tape de Billie Jean. Ça se pète la voix, il fait pas froid, pourtant tu claques des dents. La rue c'est pas un yacht, tu l'auras pas même si t'as craché dedans. Tous les soirs du monde, des rimes nocturnes sur un opératrice. Ça veut choper de la tisse, ça dort le jour pour être opé la nuit.
Cigarette et stylo, si je m'arrête, si je me terre loin de la lumière, yo, crois-tu que je vais disparaître?
Tous les soirs du monde, des rimes nocturnes sur un opératrice. Ça veut choper de la tisse, ça dort le jour pour être opé la nuit.
Cigarette et stylo, si je m'arrête, si je me terre loin de la lumière, yo, crois-tu que je vais disparaître? Je me souviens plus depuis quand, mais je me soutiens plus depuis que. Je suis aussi nostalgique, je vieillis dans ma tête, mais garde ma vigueur. Prototype alternatif, j'ignore le videur. Me plonge dans le vide, dans un rituel lorsque la lune se bride. Ce soir encore, je squatte le parc et le réverbère. L'espoir s'effrite au creux d'une main sous les yeux de l'éternel. J'y crois encore au fond, bien que victime du maléfice. Manie autodestructrice quand l'autre moi a le mal de vivre. Rendez-vous au crépuscule, j'amène la boombox et les assonances. Commotion cérébrale pour les passants tant le flou est assommant. Tout autant que ce fendant qu'ils ingurgitent plus vite. Qu'ils ne voient tant qu'ils passent et leur corps qui se casse. Jeune de la Suisse ou du 18, des origines m'importe peu. Suffit d'être un être humain pour lire la peine dans n'importe quel yeux. Les trajets éclairés d'une bougie, j'esquisse l'ombre d'une noctambule. Réveil brutal, les rayons du soleil. Transperce ma bulle.
Tous les soirs du monde, des rimes nocturnes sur un opératrice. Ça veut choper de la tisse, ça dort le jour pour être opé la nuit.
Cigarette et stylo, si je m'arrête, si je me terre loin de la lumière, yo, crois-tu que je vais disparaître?
Tous les soirs du monde, des rimes nocturnes sur un opératrice. Ça veut choper de la tisse, ça dort le jour pour être opé la nuit.
Cigarette et stylo, si je m'arrête, si je me terre loin de la lumière, yo, crois-tu que je vais disparaître? Les schémas se répètent, Je veux chez Marvel mes rêves. Chez moi, c'est des têtes entre le courage et l'échec. Je me lève et j'ai des cernes, me contrarier qu'ils essayent. Caractère animal, ne t'approche pas d'un fauve qui saigne. Invisible sont mes chaînes et le liquide que je chiale. Y'a rien de très spécial, j'écris la vie du bas de l'échelle. Moins solide qu'un chêne, parfois mes racines m'échappent. Sur mon chemin des échappes, c'est chaud, y'a à ta chair. Mes nuits me coûtent plus cher que des vacances, plus que méritées, normal. Des tornades de pensées torturent mon